Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Bonne année 2025.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler d'une maladie dont les symptômes sont liés à une alimentation trop riche et en particulier à la consommation de certains produits qui contiennent de l'acide urique que le corps n'élimine pas correctement. Conséquence, des petits cristaux se logent dans les articulations. Les douleurs sont les premiers signaux d'alerte. On parle alors de crise de gouttes. Une maladie qui touche surtout les hommes, âge, surpoids, hypertension artérielle, autant de facteurs qui doivent retenir l'attention parce qu'à terme, la goutte peut devenir chronique et dans ses formes sévères, entraîner des déformations et handicaps au niveau des articulations. Quand la goutte est diagnostiquée, que faut-il changer dans l'alimentation? Quels sont les médicaments recommandés en cas de crise? Et dans quel cas faut-il prendre un traitement au long cours? Des spécialistes à votre écoute pour vous répondre. Comment une crise de goutte se déclenche-t-elle? Quelles sont les articulations les plus fréquemment touchées? Pour répondre à toutes vos questions, on retrouve dans les studios de RFI le professeur Frédéric Lyoté. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes rhumatologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et professeur émérite à l'université Paris-Cité. En deuxième partie d'émission, on va joindre au Burkina Faso la professeure Joëlle Tiendré-Béogo, qui est rhumatologue au CHU de Bogodogo à Ouagadougou. Elle est professeure agrégée en rhumatologie à l'université Joseph Kizerbo, toujours à Ouaga. Et puis en fin d'émission, on va retrouver la chercheuse Gwenelle Kathleen, lauréate avec son équipe du prix des Marais Fondation Pierre Déniquière pour ses travaux sur le lien entre la qualité du sommeil et les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer.
Priorité santé sur RFI.
Diagnostiquer la goutte, cette maladie inflammatoire qui provoque des crises douloureuses. Et d'abord, professeur, avec vous, le signe annonciateur. Est-ce qu'il y a un premier signe ou un premier symptôme caractéristique qui permet d'identifier cette maladie des articulations?
Alors, les crises de goutte sont typiques. C'est vraiment une caractéristique des microcristaux. Ça survient en fin de nuit, souvent. C'est brutal, c'est extrêmement intense. Et le maximum des douleurs est atteint en moins de 24 heures. Ça, c'est une caractéristique des accès microcristallins, à l'inverse d'une infection qui va prendre plusieurs jours avant d'être à son maximum. Et la particularité de la goutte, c'est une fois arrivée à son acmé, à son maximum, elle va guérir toute seule en 15 jours. Les traitements de la crise vont simplement viser à soit la bloquer très tôt, soit à raccourcir cette durée d'inflammation. Mais l'inflammation, c'est la partie émergée de l'iceberg, ces crises. Car la maladie, c'est quoi? Comme vous l'avez dit, ce sont des dépôts de cristaux dans les articulations, autour des articulations et à distance. Et tant qu'il y a des cristaux, les crises peuvent survenir. Alors au début, vous allez me dire, c'est pas grave, on en fait une tous les ans ou tous les deux ans. Mais elles vont s'accélérer en fréquence, elles vont devenir de plus en plus intenses, et surtout, les dépôts de cristaux vont abîmer l'os, abîmer l'articulation, et s'accumuler, un peu comme les pièces d'un Lego. Vous avez joué au Lego, vous, Madame Paré?
Oui,
moi aussi. Ouais. Un cristal, une pièce de Lego. Un tophus, un château de Lego. Et ces châteaux de Lego, vous les avez dans les articulations.
Le tophus, c'est quand justement la crise va durer longtemps, il va y avoir une déformation ou pas vraiment?
Alors non, ce n'est pas la raison de la crise. La crise, c'est une inflammation liée à ces cristaux qui se sont libérés du tophus. Le tophus, c'est la manière dont les cristaux s'accumulent dans les articulations. Et il peut même s'accumuler dans les oreilles, dans les coudes, dans la peau.
Quand on a trop d'acide urique dans le sang, il y a donc ces cristaux, si j'ai bien compris. D'où vient cet acide urique? Il sert à quoi dans l'organisme?
Alors, l'acide urique, en fait, on en a tous. La femme, avant la ménopause, a des chiffres d'acide urique plus bas. Pourquoi? Parce que les œstrogènes éliminent l'acide urique, facilitent l'élimination rénale, comme vous l'avez dit. Chez l'homme, on n'a pas ce phénomène-là. Et donc, les cristaux vont se former. Ça ne se forme pas chez tout le monde. L'acide urique est commun à tout le monde, puisque c'est un produit de dégradation des acides nucléiques, donc d'un constituant de la cellule, ou un constituant des protéines animales, la viande, les abats, les crustacés, les poissons. Les protéines végétales ne provoquent pas d'augmentation de l'acide urique. Pourquoi? Parce que ces protéines animales vont se cataboliser en purine, contiennent des purines. Et ce sont les purines qui vont former l'acide urique. Dans les boissons sucrées, il y a le fructose, qui n'est pas une purine, mais le fructose se transforme tout de suite en acide urique. Dans la bière, qu'elle soit avec ou sans alcool, il y a aussi des purines. C'est lié à la fabrication avec le houblon, avec l'orge, etc. Et ces purines vont former de l'acide urique immédiatement. Et le pire, c'est le whisky coca, puisque le whisky coca, vous avez...
C'est les deux.
Les deux.
C'est un cocktail. Test sanguin, c'est quoi ce test qui va permettre de diagnostiquer la goutte?
C'est un dosage d'acide urique. Alors, ça se fait avec une prise de sang. Et même maintenant, vous avez ce qu'on appelle les point of care, c'est des petits dispositifs, comme pour le diabète.
Un autotest quasiment.
Un autotest pour doser l'acide urique.
Est-ce que c'est dû, la goutte, à une mauvaise assimilation, ou est-ce que finalement, si on mange équilibré, on n'a aucun risque d'avoir la goutte?
Eh bien, non. La goutte est une maladie génétique.
D'accord, donc on peut l'avoir en ayant un régime équilibré.
Absolument. Mmh. Vous avez des patients qui sont maigres, qui n'ont un régime asiatique, par exemple, traditionnel, poissons, légumes, fruits, un peu de protéines animales, et ils ont des gouttes sévères. Pourquoi ? Il y a des gènes qui sont transformés, et au lieu d'éliminer les transporteurs d'acide urique, qui sont des petites pompes dans le rein, dans le tube digestif, au lieu d'éliminer l'acide urique, fonctionne à l'envers et réabsorbe l'acide urique qui s'accumule.
Est-ce qu'il y a des profils atypiques? Alors, on a dit des hommes, il y a des personnes qui ont un patrimoine génétique qui ne les a pas favorisés, ça peut arriver. Est-ce qu'il y a des gouttes juvéniles, des formes précoces de rhumatisme? Parce qu'on a une question WhatsApp de John du Rwanda qui demande si des personnes de moins de 30 ans peuvent avoir la goutte, professeur.
Absolument. Et c'est un de nos problèmes, ce sont ces gouttes juvéniles, moins de 30 ans. Mon patient le plus jeune avait 16 ans. Mais on peut avoir des patients qui ont avant 30 ans, et c'est souvent des gouttes familiales, on retrouve dans la famille... Chez les parents, les grands-parents, les frères, les cousins, etc.
Est-ce qu'elles sont plus préoccupantes au sens où elles vont se développer de façon plus rapide et être plus douloureuses peut-être?
Alors le problème n'est pas à la douleur. Ouais. Le problème est à l'accumulation des cristaux et aux dégâts que ça va causer. L'inflammation répétée va activer les vaisseaux et ça va favoriser les maladies cardiovasculaires. Ça maintenant, on en est sûr.
Donc on a un lien entre les deux. Professeur Lyoté, on part tout de suite pour le Cameroun.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et en ligne, on retrouve Billy. Billy, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Alors, vous avez 56 ans. À quelle occasion, Billy, est-ce que vous avez été prise en charge pour prévenir une crise de goutte?
Oui, en fait, c'était un examen de routine. À cette occasion, le médecin a constaté que j'avais l'acide urique était élevé à près de 83. Et c'est ainsi qu'il m'a mis sous soin, Xyloris et Colchicine, quelque chose comme ça, voilà.
Colchicine. Donc on vous a donné des médicaments. Est-ce qu'il y a eu d'autres points dans la consultation médicale? Est-ce que le médecin vous a fait des conseils particuliers?
Oui, il m'a fait des conseils particuliers. Régime alimentaire où je devais mettre à l'écart les viandes rouges et certains crustacés et boire beaucoup d'eau.
Parce qu'à l'époque, vous mangiez plutôt pas mal de viande, de produits de la mer, et vous buviez un petit peu d'alcool aussi, ou pas vraiment?
Bon, un peu d'alcool, mais à la vérité, je buvais quasiment pas d'eau.
Ouais.
Je faisais souvent une semaine sans boire de l'eau. Ça,
vous buviez quoi alors? Des sodas, quoi?
À la vérité, je ne sais pas comment mon organisme... Mais je ne buvais pas de l'eau, je faisais une semaine sans boire de l'eau. Et bon, les sodas, je n'en prends pas.
Mais il y a bien un moment donné où vous hydratez dans la journée, Billy? Du thé, du café?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. De temps en temps, des fruits.
Bon, donc, vous avez un côté dromadaire. Alors, un an après cette alerte, est-ce que vous prenez toujours des médicaments, Billy?
Pour le moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté il y a 2 mois. Oui, voilà.
Vous-même ou c'est le médecin qui vous a conseillé ça?
Le médecin m'a conseillé d'arrêter colchicine et continuer...
Le reste du traitement. Alors, pourquoi vous avez arrêté l'autre médicament?
Bon, en fait, parce que j'ai fait une petite expérience, excusez-moi. Comme je ne pouvais pas de l'eau, j'ai fait 1 mois sans prendre les médicaments et je buvais 3 litres d'eau par jour et j'ai fait l'examen. Pour ça, je n'ai pas dit ça à mon médecin. J'ai un peu triché. Et j'ai constaté que mon acide urique avait plutôt baissé. Je n'ai pas pris de médicaments. Je buvais beaucoup d'eau tous les jours, 3 litres au moins par jour, mais ça, je ne pas dit ça en médecin, parce que je vous fais une expérience personnelle, puisque je ne buvais pas de l'eau avant. Bon. Et j'ai constaté que l'eau doit être un facteur également.
Le professeur Frédéric Lyoté veut réagir, parce que avec ce que vous dites, il y a vraiment des choses à dire. Je vous en prie, professeur.
Alors oui, bonjour Billy. En fait, bonjour. Vous n'avez pas la goutte. Vous avez ce qu'on appelle une hyperuricémie, un excès d'acide urique, qu'on appelle asymptomatique. Et cette hyperuricémie asymptomatique, en France en particulier, mais dans d'autres pays, on ne la traite pas par des médicaments. C'est un élément d'alerte en disant qu'il y a un trouble du métabolisme. Si vous avez un surpoids ou une obésité, ou si vous avez un diabète, ou une hypertension traitée par des diurétiques, ça peut suffire à expliquer cet excès d'acide urique. Mais, en fait, quelqu'un qui a un excès d'acide urique comme vous n'est pas fatalement atteint par la goutte. On considère que 10 à 15% seulement des gens qui ont un excès d'acide urique vont faire la goutte. Donc, le point, c'est de voir si votre alimentation est à contrôler. On est d'accord. Le meilleur régime, entre guillemets, moi, j'aime pas le terme régime, c'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Alors, vous savez, vous pouvez trouver sur Internet, c'est une pyramide. La base de la pyramide, c'est ce qu'on doit manger en plus grande quantité, fruits, légumes. Ensuite, on a certaines protéines végétales, les pois chiches, par exemple. Ensuite, on a les amandes, les noix, les noisettes, voilà, ce qu'on appelle des oléagineux. Un peu d'huile d'olive, des viandes blanches, un peu de poisson, un peu d'œuf et la viande rouge une fois par 15 jours ou par semaine. Mais avec ça, c'est un régime qui a des vertus énormes, non seulement dans la goutte, mais dans le diabète, dans l'hypertension, dans les maladies cardiaques. Donc dans votre cas, vous avez une hyperuricémie asymptomatique.
Donc cet instinct aussi de boire davantage d'eau qui avait été conseillé par le médecin, c'est une très bonne chose.
Alors oui, parce que le problème qui peut favoriser l'hyperuricémie et la goutte, c'est l'insuffisance rénale. Et si on ne boit pas, on se met en situation de fonctionnement rénal médiocre. Donc il suffit de boire pour déjà améliorer sa fonction rénale et réduire le risque d'hyperuricémie. Mais dans le cas de Billy, l'indication d'un traitement, en tout cas si je l'avais vu, n'était pas logique.
En tout cas, continuez à boire de l'eau comme vous le faites, c'est une très bonne résolution, Billy. On vous dit un grand merci. En termes de questions, justement, est-ce que vous avez le sentiment que le professeur Lyoté a répondu à vos questions à peu près ?
Oui, il a répondu à la question parce que la question fondamentale est de savoir si je suis j'ai un facteur de risque pour avoir la goutte. Il a répondu.
Une alimentation équilibrée, une alimentation équilibrée et continuez à bien vous hydrater. On vous remercie infiniment. Bonne journée à Yaoundé. Question de Michel en République démocratique du Congo qui demande quelles sont les complications d'une goutte non traitée, professeur ?
Eh bien, elles sont nombreuses. D'abord, on va faire crise de goutte sur crise de goutte. Depuis quelques années, on sait que chaque crise de goutte augmente le risque dans les 3 mois qui suivent, de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, parce qu'il y a cette fameuse inflammation qui active les vaisseaux sanguins, qui les rend plus collants et donc font fabriquer des embolies, des thrombus, des thromboses, des blocages des vaisseaux. Ensuite, il y a la fonction rénale qui va s'altérer. La maladie peut aussi s'accompagner d'une prise de poids, puisqu'on est dans une situation où on est cardio-métabolique et rénale, c'est-à-dire le diabète et l'obésité, l'hypertension, les troubles lipidiques. Et donc, effectivement, plus on attend, moins on traite bien, plus on risque d'aller vers des complications cardio-métaboliques et rénales. Et on a montré que quelqu'un qui prend un traitement hypouricémiant pour baisser l'acide urique en dessous de 60 mg par litre, qui est le seuil où les cristaux fondent, eh bien, le risque de mortalité est doublé à 15 ans. Autrement dit, il y a 2 fois plus de décès d'origine cardiovasculaire à 15 ans chez les patients qui sont goutteux, maltraités ou insuffisamment traités, dirions-nous.
Donc, il faut prendre les médicaments quand
il faut
on a de la goutte
les médicaments.
Et être suivi régulièrement.
Oui.
N'Golo nous a laissé ce message sur le répondeur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à l'équipe Priorité Santé. Alors moi, je m'appelle N'Golo, je vis en région parisienne, donc je suis d'origine tchadienne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Tchad, c'est l'un des pays du très très fort élevage en Afrique. Donc au Tchad, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande, de tabac. Il y a aussi une forte consommation d'alcool. Et moi, déjà tout petit, mon papa souffrait de la goutte. Alors moi, il y a 2 ans, en région parisienne où je vis maintenant, en début d'été, j'ai fait une petite crise de goutte qui est passée. Et l'été dernier, la crise, elle était plus forte. Donc là, j'ai vu mon médecin qui m'a diagnostiqué la goutte. Et depuis lors, voilà, j'ai changé mon alimentation, je me suis remis au sport et tout va bien. Mais mes questions, en fait, c'est de savoir, est-ce que déjà les crises de goutte sont liées à une saison? Et la seconde question, c'est de savoir, est-ce que avoir des crises de goutte peut être sujet à l'âge et peut-être avancer à des maladies cardiovasculaires? Donc, merci et bonne émission.
Alors, question de N'Golo. Maladie cardiovasculaire, vous y avez répondu partiellement tout à l'heure. Oui. Professeur Frédéric Lioté, ses antécédents de goutte dans la famille. N'Golo qui lui-même a déjà fait des crises. Et il pose une question sur les saisons. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet?
Oui, Caroline.
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe l'été?
Eh bien, il fait chaud.
Ah.
On se déshydrate.
Déshydratation.
Et la déshydratation favorise les crises de goutte.
C'est pas à cause des barbecues. C'est plus à cause de la déshydratation.
Il y a bien sûr la quantité de protéines qu'on va manger.
Ouais.
On sait que les crises de goutte, par exemple, peuvent être déclenchées par un régime trop riche en gras. On a fait des études chez la souris, on s'est posé la question de l'alcool et du gras, et on a montré que l'alcool, quand on l'injecte dans l'articulation, il ne se passe rien. À l'inverse, quand on injecte des substances grasses, des lipides dans l'articulation, on favorise le déclenchement des crises de goutte. Dans le cas présent, on sait que boire suffisamment, alors suffisamment, ce n'est pas 3 litres, bien sûr, c'est au moins 5 verres par jour, 5 verres d'eau, ça fait quasiment 1 litre, 1 litre,
1 litre et demi,
deux. Ça réduit le risque de faire des crises.
Bien sûr, pour notre auditoire, hein, quand on est en milieu sahélien ou en milieu tropical où il fait très chaud, on va augmenter sa consommation
Absolument.
D'eau en fonction de la température et en fonction de l'activité physique de la journée. On va poursuivre notre échange, prendre d'autres auditeurs en ligne. Ce sera juste après cette collaboration entre Kepi, Rema et Rayvanny avec ce titre Jollof on the Jet sur RFI.
Yeah, you turn good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat, I go give you kumkumba and my cassava. Yeah, papa soft, kuna kepele, base ni chune, yote michele, kula baga, nilete mbele, acha simata na shawa unekere. Baby, you don't know that you're the one who lives in my soul. I want you to know.
Priorité santé sur RFI, diagnostic et prise en charge de la goutte. Qu'est-ce qui favorise cette inflammation des articulations? Comment faire baisser son taux d'acide urique? Toujours en compagnie du professeur Frédéric Lioté, rhumatologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et vous insistez, professeur, on n'en a pas parlé depuis le début de cette émission, sur l'image de cette maladie, lutter notamment contre la stigmatisation. Ça existe encore, cette stigmatisation?
Absolument.
Des patients goutteux, comme on dit?
Absolument. Les goutteux sont cachés. Les goutteux sont cachés parce qu'effectivement, il y a des images, ce qu'on appelle des images d'épinal, du monsieur un peu gros, un peu âgé, qui boit trop, qui mange trop et qui fait ses crises de goutte, monsieur Pickwick, par exemple. En fait, c'est faux. C'est faux et c'est un peu vrai. C'est faux parce que la composante principale de la goutte et de l'accès d'acide urique, c'est la génétique. Donc, des mutations de certains gènes qui codent pour des transporteurs, des pompes à acide urique, qui fonctionne à l'envers dans le rein, elle réabsorbe au lieu d'éliminer, et dans le tube digestif, elle ne fonctionne pas. Donc elles ne peuvent pas éliminer l'acide urique. La composante alimentaire, elle vient en plus. Mais moi, la première chose que je dis à un goutteux, c'est pas de votre faute.
Parce qu'il y a encore une forme d'image moralisatrice.
Absolument.
Ouais. Comme on a aussi pour d'autres affections hein, qui touchent le métabolisme. On peut parler de l'obésité aussi.
Je pensais
à ça. On peut parler aussi parfois même du diabète en disant tu manges trop sucré, alors que finalement les personnes certes ont pu avoir une alimentation déséquilibrée sur laquelle il faut travailler, mais pour autant la morale n'a rien à voir là-dedans.
Absolument. Et donc c'est un credo qu'on a, nous on dit aux patients, c'est pas de votre faute. D'ailleurs regardez, votre oncle, votre cousin, votre père a eu la goutte, c'est génétique. Donc ça c'est un élément tout à fait important. L'alimentation rentre en ligne de compte, mais comme je vous l'ai dit avant, ABS, alcool dur, bière, soda, on arrête, c'est pas compliqué. On peut négocier le vin, bien sûr, avec modération, pas tous les jours. Et le régime méditerranéen. Enfin, il y a une troisième composante qu'on commence à découvrir, qui est l'environnement. Il n'est pas impossible que l'environnement, l'empoussièrement, les PFAS, etc., participent.
Des polluants dans l'environnement éternels
puissent participer au développement de la maladie. Parce que, comme l'a dit un des auditeurs précédemment, l'âge est un facteur. L'âge et la prise de poids, et ça c'est inéluctable, et la fonction rénale qui se détériore.
Est-ce qu'il y aura même une géographie de l'incidence de la goutte, professeur ?
Absolument, et ça ça va dans le sens de la génétique. En France, c'est environ 1% de la population. Aux États-Unis, c'est 5%. Et à Tahiti, c'est 15 ou 20%, parce qu'ils ont les mauvais gènes. Taïwan, c'est pareil. La Chine, c'est pareil.
Donc on a des territoires surreprésentés.
Oui.
Alors, on va prendre maintenant la direction du Gabon, si vous le voulez bien.
RFI à Libreville, 104 FM.
Et tout de suite, ce témoignage de Monsieur Mbams, qui a enregistré ce message sur le répondeur WhatsApp de l'émission, on l'écoute.
Je suis Monsieur Mbams, vivant au Gabon, j'ai 62 ans. Ça fait plusieurs années que je souffre de la goutte. Au village, on disait que nos parents ne vivent que du gibier. Pourquoi ils n'en souffriraient pas? Maintenant, nous ici en ville, à Libreville au Gabon, c'est là où maintenant la maladie de la goutte arrive. J'ai fait plusieurs fois l'acide urique. Certaines fois, il est positif. Je me suis mis souvent sous Cochimax et sous Ulurique 200. Il y a des moments, ça me lâche. Les moments, quand ça vient comme ça, ce sont les orteils. Des fois, c'est le revers du pied. Des fois, c'est le genou. Des fois, c'est le gros orteil. Des fois, c'est la cheville. Vraiment, ça me fatigue, quoi. Quelle alimentation vous me conseillez, vraiment, parce que ça m'embête. Je vais essayer de m'amender, quoi, pour essayer de suivre vos conseils. Merci.
Je vais essayer de m'amender. Vous dites à cet auditeur, M. Mbams de Libreville, pas trop culpabiliser pour commencer. Hein.
Absolument, ce n'est pas vraiment de votre faute. Alors, c'est vrai qu'on l'a déjà dit, l'alimentation riche en protéines animales, c'est important. Ses parents, ses grands-parents, ses ancêtres étaient au village. Ils mangeaient de la viande, du gibier, mais ils avaient une activité physique.
Oui, c'est vrai, parce que les gens se disent, quand on était au village ou en forêt, on chassait, on mangeait du gibier tout le temps, et pourtant on n'était pas malade.
Ouais, mais en
fait, on ne buvait pas de soda non plus.
Exactement. Et on montre que on peut voir les régions rurales, suburbaines et urbaines. Et en Afrique, c'est caricatural. Et on voit effectivement qu'avec ce passage du rural à l'urbain, on rentre dans un régime de l'Ouest, avec plus de protéines, plus de calories, plus d'alcool, plus de soda. Et pour revenir aux autres pays du monde, il y a la Chine qui est une caricature. Il y a 50 ans, la goutte, on n'en parlait pas. Ils sont arrivés maintenant vers un régime western diet, un régime occidental. Et la goutte, c'est 1,1% de la population adulte.
Donc ça a explosé.
1,1% de 1,4 milliard, ça
énorme.
Fait du monde. Et vous avez des consultations goutte où il y a 50 000, 100 000 personnes.
Alors, on a cet auditeur de Libreville qui décrit d'ailleurs des douleurs qui bougent dans le corps, qui sont quand même fluctuantes.
Alors, ça, c'est un argument pour dire qu'il a une goutte qui s'aggrave. La goutte commence au pied. C'est typiquement la crise de goutte au gros orteil. Ça peut être d'autres parties du pied, le coup de pied, la cheville. Mais la goutte, elle monte. Elle est ascendante. C'est-à-dire que les crises vont, au fur et à mesure de l'accumulation, toucher le genou, parfois même monter aux membres supérieurs. Et là, on a des signes de gravité. C'est une extension de la maladie. Donc, dans le cas de présent, l'alimentation de cette personne ne suffira pas. Sa modification ne servira pas.
Parce qu'on
c'est le traitement hypouricémien.
On a bien entendu dans son message, j'ai souvent pris du. Vous lui diriez, il vaut mieux le prendre de façon très, très régulière.
Oui, l'allopurinol dont il a parlé doit être pris de façon constante. Et ce n'est pas un forfait, ce n'est pas 200. C'est on augmente la dose d'acide urique, d'allopurinol,
de médicaments en fonction.
En contrôlant l'acide urique.
D'accord.
Si elle est en dessous de 60, il a gagné. Il va faire fondre ces cristaux et petit à petit, il va réduire la fréquence des crises de gouttes. Ça ne va pas se faire en une journée, ça ne va pas se faire en un an, ça peut prendre 2 à 3 ans.
Donc ça veut dire, pour cet ajustement du traitement, monsieur Mbam, si vous nous écoutez, allez consulter et il va falloir avoir un suivi régulier.
Et il faut renouveler le traitement.
Alors on va partir pour la République démocratique du Congo, Kinshasa. On retrouve tout de suite Claude. Claude, bonjour.
Bonjour.
Claude, rapprochez-vous bien du téléphone, sinon on ne va rien entendre du tout, s'il vous plaît. Alors Claude, vous vous appelez au sujet de votre frère. Lui aussi, il a eu des douleurs. C'est quoi ces symptômes chez votre frère et il a quel âge, s'il vous plaît?
Mon frère a 59 ans.
Oui.
Les symptômes, souvent les pieds, souffre beaucoup de pieds. Bon, nous sommes partis à l'hôpital, les médecins ont confirmé que c'était les gouttes.
Oui. Des douleurs très intenses chez votre frère, il prend quelque chose pour se soulager?
Non, après la consultation, qu'il avait commencé à prendre des médicaments.
Il a pris des médicaments. Est-ce que ces médicaments lui ont fait du bien? Est-ce qu'il a réussi à mieux dormir ou est-ce qu'il avait toujours aussi mal?
Oui, la première semaine s'était bien passée.
Ouais.
Arrivé la deuxième semaine, quand la première prescription a pris fin,
ouais,
nous sommes repartis encore chez les médecins pour qu'il soit encore, qu'il ajoute d'autres médicaments. Quand il avait commencé, vraiment, c'était vraiment terrible.
Terrible, d'accord. Est-ce que, le son n'est pas très bon, hein, c'est pour ça que je parle un peu fort. Est-ce que le médecin a donné des conseils sur le plan de l'alimentation? Par exemple, est-ce que votre frère consomme de l'alcool?
Non, mon frère ne consomme pas l'alcool.
Ouais.
Mais souvent, auparavant, il fumait. Il fumait, mais il a laissé depuis l'âge de 45, il a laissé.
Quand il mange beaucoup de viande ou il y a quand même pas mal de légumes dans son alimentation?
Non, pas de légumes. Il mangeait beaucoup de viande quand il était encore au niveau du village. Et depuis qu'il est venu à Kinshasa, on a arrêté avec la viande. Il mange souvent les légumes, la tomate, ainsi de suite.
On vous écoute, Claude, pour votre question. Le professeur Lyotet est à votre écoute, je vous en prie.
Ok, merci.
Je vous écoute, monsieur.
Votre question, allez-y, je vous en prie.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez poser votre question, bon, Claude?
Ma question est celle-ci. Bon, à quoi est dite cette douleur très forte? Souvent, ça arrive la nuit, quand il commence à pleurer. Est-ce qu'on peut arrêter le traitement qu'il avait commencé ou comment? C'est ça ma question.
Oui, en fait, quand on vous entend, hein, Claude, il faudrait une consultation assez longue avec le médecin pour qu'il vous explique bien tout le processus de la maladie. Mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission, le professeur Lyotet va vous résumer tout ça. Je vous en prie.
Alors, effectivement, je vais prendre 2 points en considération. D'abord, il y a le traitement des crises de gouttes. Je vais vous donner un secret. Le secret, c'est la colchicine le plus tôt possible. Dès qu'on sent, on connaît les crises de gouttes, les gens en ont déjà eu. Le secret, c'est dès qu'on sent que ça commence, on prend un comprimé, 1 mg de colchicine. Et une heure après, on prend un demi-milligramme, un demi-comprimé. Et avec ça, ça suffit à casser la crise, à éviter qu'elle ne se développe. Si vous attendez une journée ou 2 jours avant de commencer le traitement, ça ne marchera pas
suffisamment. Il ne faut pas attendre que ça passe.
Jamais attendre. Nous, on a l'habitude de dire, il faut avoir la colchicine dans la poche. Sur la table de nuit, puisque ça survient la nuit, ou dans le sac à main, dans le sac à dos, dans le bureau. Mais le plus tôt, le mieux. C'est vraiment un secret que l'on donne à nos patients. Ils doivent s'auto-traiter. Ils ne vont pas aller voir le médecin 48 heures après pour faire le traitement de la crise.
Ils doivent s'écouter et réagir.
Je le dis, votre crise est entre vos mains. Votre pied est entre vos mains. Bon, caricature.
Donc, ça veut dire un bon suivi, bien comprendre, parce que ces douleurs, c'est donc à la fois les cristaux et l'inflammation.
Ce sont les cristaux qui déclenchent l'inflammation.
Voilà pour les explications.
Alors, pourquoi la nuit? Eh bien, en fait, vous savez, en physiologie, il y a des rythmes pour la production d'hormones, la production de facteurs de métabolisme. Et notamment, il y a la cortisone naturelle, qu'on appelle le cortisol. Et le pic est souvent retardé et n'aura pas un effet anti-inflammatoire immédiat. La deuxième chose, c'est que les cytokines de l'inflammation, qui sont la crise de gouttes, qui donnent la crise de gouttes, leur production, elle est nocturne au pic. Donc c'est pour ça qu'on a les crises en fin de nuit, donc, au chant du coq, comme on disait.
Donc on garde bien sur la table de chevet ces médicaments pour se soulager. On dit bon courage à votre frère, Claude. Et toujours à Kinshasa, c'est Sacha qui a une question également à vous poser, professeur, on l'écoute.
J'avais vu quelque part que les hommes étaient plus sujets à la goutte et tout. Est-ce que c'est le cas pour les femmes aussi? Parce que de temps en temps, moi, j'ai des pieds qui me font un peu mal, du mal à poser le pied par terre. Mais j'avoue que je mange quand même beaucoup de viande et de temps en temps, j'ai des périodes comme ça où je bois beaucoup.
J'avais fait un examen pour voir le taux d'acide urée. Il n'y avait rien, mais j'avais ces douleurs au niveau des articulations, les pieds qui étaient un peu contrits, que j'avais du mal à poser.
Notre auditrice de Kinshasa, attention, toutes les douleurs articulaires ne sont pas la goutte non plus.
Bien sûr, et chez une femme en particulier. En plus, la description qu'elle fait n'est pas celle d'une crise de goutte. Je le rappelle, c'est brutal, intense, maximum en 24 heures. Avec une rougeur locale. Donc, dans le cas présent, je ne vais pas discuter le diagnostic de cette personne, mais je vais répondre à l'aspect homme-femme. Pour une fois, il y a plus d'hommes atteints.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies où c'est un ratio inverse.
Voilà. La femme peut faire la goutte, mais après la ménopause, puisque les hormones, les œstrogènes, ont un effet uricosurique. Ils éliminent l'acide urique par les reins. Après, on a souvent ça chez des femmes qui ont une hypertension ménopausée, hypertendue, traitée par diurétique. Et ces diurétiques augmentent la réabsorption de l'acide urique. Donc double peine, plus d'œstrogènes, médicaments qui augmentent la réabsorption. Et donc l'acide urique va monter. Donc les gouttes chez la femme, on les voit, mais plus tardivement que l'homme. L'homme, c'est aux alentours de 50 ans, 40 ans. La femme, ça va être plus 70 ans.
Mais encore une fois, pour Sacha, plutôt consulter, voir un généraliste ou un rhumatologue pour poser un diagnostic, parce qu'il n'est pas du tout évident qu'il s'agisse d'une goutte.
Pour moi, je ne crois pas que ce soit la goutte.
On va donner tout de suite la parole à l'une de vos consoeurs. On part pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
On vous retrouve, professeur Joël Tiendré-Béogo. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Paré.
Vous êtes rhumatologue au CHU de Bogodogo à Ouagadougou, également professeur agrégé en rhumatologie à l'Université Joseph Kizerbo. Professeur, est-ce que vous avez des chiffres pour connaître par exemple la proportion de patients qui viennent dans votre consultation et qui sont touchés par cette maladie dont on parle depuis le début de l'émission, par la goutte?
Merci Madame Paré et bonjour à tous les auditeurs, à toute l'équipe. Et à M. Lyoté, qui était mon coordonnateur de DFMS en 2010-2011.
Le monde est petit.
Concernant les données dans notre pratique, alors nous n'avons pas de données en population. Les données qui sont disponibles sont surtout hospitalières. Et dans les travaux réalisés sur près de 14 ans, pour nos derniers chiffres, il ressort que la fréquence est à 4% chez les patients vus en consultation de rhumatologie.
D'accord. Est-ce que cette affection, la goutte, elle est connue du grand public au sein de la population?
Alors, bon, nous estimons que cette affection n'est pas bien connue du moment où les patients arrivent à des stades de complications, puisqu'on reçoit beaucoup de patients qui ont des complications déjà, avec des dépôts au niveau sous-cutané, comme des tophies, des gouttes polyarticulaires, déjà des atteintes rénales. Donc, nous pensons que c'est parce que cette affection n'est pas très bien connue du fait que les anti-inflammatoires marchent bien, donc ils pratiquent parfois de l'automédication aussi.
Autre question, est-ce que le personnel soignant, lui aussi, y compris dans les centres de santé primaires, connaît la goutte?
Alors, pour les structures périphériques, puisque le système de santé est organisé avec... le niveau inférieur, où il y a surtout des infirmiers. Mais dans les centres médicaux, nous avons essayé de regarder dans un travail la connaissance de la goutte par les médecins généralistes. Et dans l'ensemble, les trois quarts des médecins généralistes qui ont répondu connaissent assez bien la goutte. Le problème n'est pas tant au niveau du diagnostic en vérité.
Oui.
C'est plutôt au niveau de la prise en charge, du suivi des patients.
Parce que c'est ce qu'on entend depuis le début de l'émission, pas mal d'auditeurs qui ont eu un diagnostic, et puis on va dire, quand ça va mieux, ils arrêtent le traitement. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez?
Oui, c'est quelque chose que nous observons. C'est pour cela que nous avons initié ce qu'on appelle des séances d'éducation thérapeutique. Nous avons essayé de réunir des patients qui avaient de la goutte, d'échanger sur la maladie, de voir un peu ce qu'ils savaient, ce qu'ils voulaient savoir. Et c'était très enrichissant et je pense que pour les praticiens surtout, ce serait bien d'axer aussi la prise en charge en fait sur ces séances-là qui aident énormément les patients et favorise l'adhésion parce que c'est un traitement qui est long souvent et c'est assez difficile en fait de voir des patients qui ne sont pas symptomatiques qui viennent.
Mmh. Sur le profil de vos patients, est-ce que chez vous aussi, à Ouaga, ce serait un homme après la cinquantaine qui présente dans un certain nombre de cas un surpoids ou pas forcément ?
Oui, nous avons à peu près le même profil. Hein. Ce sont des patients de la cinquantaine. Dans le dernier travail, c'était 53 ans pour les chiffres. Mais on se rend compte, on a l'impression d'avoir des patients de plus en plus jeunes. Hein.
Oui.
40 ans, 38 ans. Et nous trouvons que les chiffres sont quand même... on a tendance à les voir beaucoup plus jeunes.
Pourquoi vous reliez ça avec des changements dans l'hygiène de vie, notamment certaines consommations alimentaires ?
Oui, bien sûr. Puisque l'alimentation, elle est surtout beaucoup plus riche en viande qu'en poisson. N'ayant pas accès à la mer, c'est vrai qu'on a les poissons d'eau douce, mais c'est beaucoup plus basé sur la viande et aussi la consommation des sodas, de la bière, même des bières locales qui n'est pas négligeable dans notre contexte.
Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des arrêts de traitement, il y a des ruptures dans les prises de ces médicaments, mais il faut dire aussi qu'il y a peut-être aussi un problème de prix, tout simplement, ou de disponibilité des traitements pour les patients.
Dans l'ensemble, les médicaments sont disponibles dans les pharmacies.
Ouais.
Pour le traitement de base ou le traitement de première intention, si on peut le dire ainsi, que ce soit la colchicine, que ce soit la loperidol pour le traitement de fond, dans l'ensemble, on arrive à les avoir. C'est quand il y a des complications et qu'il faille aller éventuellement à des molécules un peu plus compliquées, qui sont plus chères dans notre contexte que... cela devient difficile pour nos patients.
Vous avez insisté en début, ce sera notre conclusion, sur l'éducation thérapeutique. Précisément, professeur Tiendré Béogo, quand vous donnez des conseils en matière d'alimentation et d'hygiène de vie, est-ce que ça passe bien auprès de vos patients ?
Ah non, je vous assure que c'était le plus dur et on l'a appris avec les séances d'éducation thérapeutique. Parce qu'il y a des a priori. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sur la goutte qui ne sont pas toujours justes. Donc, c'est pas toujours évident.
Ces préjugés, c'est quoi, par exemple, professeur ?
Les préjugés, c'est un certain nombre de mesures alimentaires, certains aliments, notamment certaines viandes, que les patients pensent pouvoir baisser l'acide urique. Enfin, ce sont je pense que c'est une méconnaissance de la maladie.
Ça veut dire qu'on leur donne des conseils alimentaires qui ne sont pas du tout appropriés, c'est ça ?
Oui, voilà. Les connaissances alimentaires ne sont pas appropriées.
On vous remercie pour toutes ces explications, professeur Joël Tiendré Béogo. On arrive à la conclusion de notre échange, professeur Lyoté. On a encore quelques petites questions d'auditeurs sur WhatsApp à Dubaï. Dina voudrait savoir si la goutte peut toucher le nerf sciatique.
Non. Sauf s'il y a un tophus, comme on l'a dit, qui se retrouverait à proximité du nerf sciatique. Mais autrement, ça n'est pas une cause de sciatique.
D'accord.
Sauf des cas très particuliers.
Ça veut dire que ça peut être localisé au même endroit, mais ce ne sera pas une sciatique.
Alors, ça veut dire, par exemple, s'il y a une goutte au rachis, c'est des dépôts de cristaux dans la colonne, sur certaines articulations, et que cela pourrait, mais de façon très exceptionnelle, dans des formes graves, comprimer le nerf sciatique.
Alors, toujours en RDC, on a une question de Constant de Kisangani qui aimerait savoir s'il y a dans le lait de vache une substance qui régule le taux d'acide urique.
Alors, à ma connaissance, non et oui. Je suis désolé, je suis un peu normand aujourd'hui.
Oui, mais c'est pas grave. Parce que je suis allée regarder quand même sur Internet et je sais que c'était un petit peu les lobbies du lait qui diffusaient cette information, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il en est.
Alors, ce qu'on a montré, c'est en fait les collègues néo-zélandais, c'est que les laitages allégés, écrémés ou demi-écrémés, ont un effet uricosurique. Voilà. Après, le lait de vache, on ne va pas rentrer dans
lait
le détail.
Entier, ouais.
Mais tout ce qui est laitage allégé, c'est une recommandation alimentaire.
Donc, ça veut dire, en tout cas, ce n'est pas déconseillé et ça peut aider.
Voilà, ça fait partie de la fameuse pyramide du régime méditerranéen.
Pour autant, on ne se met pas à manger de la crème fraîche à la petite cuillère.
Et non.
Et s'il y avait un conseil, vous disiez, ce régime méditerranéen qui d'ailleurs peut être adapté, hein, quand on est dans d'autres régions, on n'a pas forcément accès à l'huile d'olive, notamment parce que c'est extrêmement cher. Et puis, il y a d'autres noix, tout à l'heure, vous parliez des amandes, etc. On a les noix de cajou, on a d'autres noix qui sont aussi disponibles, les arachides. Il y a vraiment, au niveau de l'alimentation, des conseils très importants.
En fait, c'est réduire les protéines animales et réduire les calories. Donc, réduire les calories, c'est facile, c'est moins manger éviter de grignoter et puis avoir une activité physique.
Parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la lutte contre la sédentarité.
Absolument. Et dernier point, c'est le tabac, puisque le tabac est un facteur de risque cardiovasculaire. La goutte elle-même est un facteur de risque cardiovasculaire.
Donc il faut aussi l'intégrer quand on a envie de garder son cœur et ses artères en bonne santé.
Absolument.
Un grand merci à vous, professeur Frédéric Lioté, pour toutes ces explications. On va parler dans quelques instants des travaux de chercheurs et chercheuses sur le lien entre sommeil et maladies neurodégénératives. Ce sera juste après ce titre de Balaké Sissoko, Pierce Faccini avec Born in the Wind.
Born on the wind, where the bad birds sing. Bird at the lark that the new light brings. Remember it then, I could never be wrong, playing in me the way of a song.
Pour récompenser des travaux des recherches dans le domaine des maladies neurodégénératives. L'équipe de la chercheuse Gwenaëlle Kathleen, lauréate du prix des Marais Fondation Pierre Deniquière. Gwenaëlle Kathleen avec nous en ligne. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la directrice d'études à l'école pratique des hautes études au sein de l'Institut des neurosciences intégratives et cognitives d'Aquitaine. Alors vous travaillez sur ce lien entre sommeil et activité cérébrale. Qu'est-ce que l'on sait précisément des effets bénéfiques du repos pour la qualité de la santé du cerveau ?
Alors ce qu'on sait depuis assez longtemps et qui a été beaucoup étudié en laboratoire, c'est les liens entre le sommeil et la mémoire qui ont été étudiés de différentes manières et montrer comment les performances de mémoire étaient meilleures après une bonne nuit de sommeil.
Alors donc, la mémoire, donc j'imagine qu'on s'intéresse aux maladies qui peuvent affecter la mémoire.
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est des travaux qui sont menés, alors pas par mon équipe en l'occurrence, enfin, qui sont menés dans d'autres, enfin depuis assez longtemps et dans, par d'autres équipes de chercheurs, et qui ont pu démontrer ce lien entre qualité de sommeil et mémoire, et avec des liens également au cours du vieillissement entre des baisses de performance de la mémoire liées à une moins bonne qualité de sommeil qui survient au cours du vieillissement.
Alors, dans le cadre de vos travaux précisément, vous utilisez quelle technologie et vous travaillez sur quel point précis ?
Alors justement, nous, on travaille donc sur la santé cérébrale au cours du vieillissement et on combine en fait des données d'IRM qui permettent de décrire le cerveau et les différents aspects du fonctionnement et de la structure cérébrale qu'on combine à des données d'évaluation du sommeil en vie quotidienne. En fait, les sujets, les volontaires sur lesquels on travaille, ils passent une IRM, on mesure différentes choses dans leur cerveau, et ensuite on leur demande de porter une montre actimétrique, c'est-à-dire une montre qui enregistre leurs mouvements à la maison pendant une semaine ou 15 jours, 24 heures sur 24. Et de ces petits objets, de ces petites montres, en fait, on va déduire leur durée de sommeil et la qualité de leur sommeil. Donc nous, on fait des évaluations pas très précises, on va dire, du sommeil, mais par contre en vie quotidienne, réellement, chez les gens, pas en laboratoire. Et c'est ça qui caractérise l'activité de recherche de mon équipe, c'est de combiner l'IRM à ces données évaluées dans la vie de tous les jours.
Et sur une quinzaine de jours, il y a des données observables réellement ?
Ah ben oui, bien sûr, parce que vous le savez, j'imagine, vous le vivez vous-même, vous ne dormez pas de la même manière d'une nuit sur l'autre. Mmh. Et donc nous, c'est ça qui nous intéresse par rapport à ce qui est fait en laboratoire, c'est justement de capter un peu ce sommeil dans la vie de tous les jours, qui est finalement assez peu étudié encore.
Et les conclusions, c'est que mieux on dort et le cerveau réagit différemment ?
Alors, nous, on a montré, donc il y a un certain nombre d'années maintenant, que les gens qui avaient un meilleur sommeil, d'après ces données actimétriques, c'est-à-dire plutôt le fait de dormir sans interruption, hein, de ne pas se réveiller au cours de la nuit, ils présentaient une structure du tissu qui permet les connexions entre les neurones de meilleure qualité, en quelque sorte. C'est-à-dire que le cerveau est impacté par la qualité du sommeil. C'est-à-dire que les sujets qui dorment moins bien, ils ont une structure cérébrale un peu altérée, on va dire,
Donc, ce qu'on va bien comprendre, c'est que dans la somme recueillie dans le cadre de ce prix que vous avez reçu va pouvoir vous permettre de poursuivre vos recherches avec toute votre équipe. On vous dit un grand merci pour toutes ces explications. Gwenaëlle Kathleen, on l'a bien compris, pour protéger sa santé, bien dormir, pour garder une mémoire intacte. Et puis bravo pour ce prix qui récompense bien sûr votre travail de recherche. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louis Kalédek, Talim Pou. Demain, à l'occasion de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées, on va parler avec nos invités de la bilharziose, de la leishmaniose, d'autres maladies parasitaires classées parmi ces MTN qui touchent les populations les plus vulnérables. Quelle riposte pour lutter contre ces maladies qui concernent plus d'un milliard d'individus sur Terre, d'après l'OMS. On se donne rendez-vous à 9h10, temps universel. D'ici là, bien sûr, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Bonne année 2025.